France Inter.
L'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour mon cher Thomas et bonjour à tous. À la une de ce 13h, la montée en pression à Munich, à 8h du coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions. PSG face à l'Inter Milan, et bien nous serons dans la fan zone des Parisiens, dans la capitale bavaroise. Puis nous prendrons des nouvelles des joueurs. Rendez-vous avec nos envoyés spéciaux à Munich, Nicolas Perronnet, Xavier Monferrand. Quels sont les atouts du PSG face à une équipe milanaise qui a une bonne expérience des finales européennes? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité, l'ancien gardien du PSG, Jérôme Alonso. À la une également, ces dégradations. La nuit dernière, à Paris, de la peinture verte lancée sur le mémorial de la Shoah, deux synagogues et un restaurant de la communauté juive étaient visés. Nous évoquerons les prisons françaises, car jamais il n'y a eu autant de détenus. La surpopulation carcérale dénoncée par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, vous l'entendrez. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin dans une guinguette itinérante. Elle vient apporter de l'animation dans les bourgs les plus reculés.
Souvent, on en a même qui disent, c'est mon voisin que j'avais pas vu depuis des mois ou un moment, et ils se retrouvent là ensemble sur un temps où ils vont boire un coup ensemble, ils vont passer un bon moment, ils vont discuter, et c'est tout ce qu'on veut dans la guinguette.
Et après ce journal, ce sera Secret d'Info, magazine d'investigation. Benoît Colombat, sur quel thème?
Eh bien, nous allons vous faire entendre des témoignages très forts, ceux d'anciens élèves et d'enseignants au sein des écoles de cirque touchés par les violences sexistes et sexuelles. L'un de ces établissements a récemment fait l'objet d'investigations de la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta, avec des orages cet après-midi.
Oui, des orages potentiellement forts dans le nord-est.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. De l'excitation, bien sûr, mais aussi du stress, parfois, chez les supporters du PSG. Ils commencent à prendre leur quartier à Munich. Nous sommes à 8h du coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Nicolas Perronnet, vous êtes à Munich, aux abords de la fan zone des supporters parisiens. Bonjour.
Bonjour Eric.
La Königsplatz, en français, la place du roi. C'est là que est installée cette fan zone qui attend 17 000 personnes avant ce soir.
Oui, et une bonne partie d'entre eux sont déjà sur cette place royale dont le nom sera, espèrent les supporters parisiens, évidemment prémonitoire. C'est une immense place avec ces bâtiments anciens à colonnes, tout ce qu'il faut pour se restaurer, pour s'hydrater, surtout parce qu'il fait très chaud. C'est sous un grand soleil, un grand ciel bleu, le lieu de tous les espoirs pour les supporters parisiens comme Alex.
On profite de ces moments déjà avec tous les supporters, et puis on se dit que ce soir ça sera la bonne.
Allez, on la veut vraiment, ouais, on la veut vraiment pour plein de choses, pour répondre aux Marseillais déjà, en disant voilà, on l'a aussi. Et après, ouais, non, c'est clairement, on va l'avoir.
Voilà, il y a de l'ambiance, vous l'entendez, il y a de quoi aussi se préparer pour cette finale avec des stands de maquillage, la boutique, évidemment, avec les écharpes collector, les maillots sur lesquels s'est jeté Mike, pour qui la pression commence sérieusement à monter.
Ah, voilà, on commence à se rassembler tous, les quarts d'ultra commencent à arriver. Les supporters commencent à se rassembler, c'est un privilège avant tout. Franchement, on va vivre le plus grand match de l'histoire du club ce soir, sans aucun doute. Pour nous, c'est le plus grand match de notre vie. Ça fait 12 ans qu'on l'attend, il est là. Donc voilà, on espère que ça va être une très belle fête. Quoi.
Tous les supporters nous disent la même chose, hein, nous racontent leur rêve d'être là, leur excitation, leur espoir de décrocher enfin cette première étoile. Il y a, pour les galvaniser encore davantage, une scène avec écran géant sur laquelle se succèdent des anciennes gloires du club, comme l'attaquant Ludovic Julie.
C'est un moment historique pour le club, pour les joueurs et pour nous anciens joueurs, parce que nous on kiffe ça, on kiffe ces moments-là de partage, de pouvoir vivre des choses uniques dans une carrière. Donc très très heureux d'être là aujourd'hui. Moi je vois un 2-1-3-1 pour Paris.
Voilà les supporters, les anciens donc en zone d'attente avant le grand soir. Les premières navettes quitteront cette fan zone direction le stade vers 16h.
Nicolas Perronnet déjà ambiancé à Munich en direct de la fan zone du PSG. Nous retrouvons un autre de nos envoyés spéciaux dans la capitale bavaroise, capitale européenne, voire mondiale du football ce week-end. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les joueurs parisiens ont effectué hier soir leur premier entraînement sur la pelouse allemande de l'Allianz Arena. Et quel est leur programme jusqu'à ce soir ?
Eh bien écoutez, si la journée est extraordinaire, vous l'avez entendu, pour les supporters, elle doit être d'une extraordinaire banalité pour les joueurs. Elle doit être très ordinaire cette journée, et c'est même une des clés du match. Il doit être dans un confort, ne pas en faire trop. D'ailleurs, c'était l'enjeu dont parlaient Luis Enrique et Marquinhos, le capitaine, hier en conférence de presse. Ne pas arriver trop motivé, car on peut se tromper. Ne pas avoir de peur, disait Luis Enrique. Les joueurs, ce matin, ont eu un réveil musculaire. C'est l'heure du déjeuner désormais, puis il y aura la sieste, jamais trop longue. Attention à l'organisme, tout le monde ne dort pas, mais pour ceux qui dorment, il ne faut pas excéder une heure et demie, hein, les préparateurs physiques vous le diront. Et puis après, il y aura une dernière réunion à l'hôtel avant de partir au stade vers 18h-18h30, une dernière réunion avec Luis Enrique, qui devra trouver les mots pour ses joueurs, pour préparer au mieux cette finale, les derniers mots avant de se jeter dans cette Allianz Arena, cette Fußball Arena de Munich, et de vivre cette finale pleinement.
Xavier Monferrand et avant lui Nicolas Perronnet, deux de nos envoyés spéciaux à Munich, avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Et bonjour Jérôme Alonso.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous êtes ancien gardien du PSG, époque Luis Fernandez, hein, c'était donc dans les années 2000, consultant Radio France. Alors l'Inter, elle a l'expérience des rendez-vous de finales européennes. Quels arguments vont mettre en avant ce soir ces joueurs, cette jeune équipe du PSG?
Oui Eric, elle a tellement l'expérience, cette équipe de l'Inter, qu'elle a perdu quasiment injustement contre City la finale il y a deux ans. Ça veut dire que c'est quasiment le même groupe. Je crois qu'il y a trois joueurs qui sont plus là, donc c'est quasiment les mêmes déçus, j'allais dire, d'il y a deux ans, une finale. Pour moi, ça compte beaucoup, l'expérience. Je pense que ce match, c'est aussi l'affrontement d'une expérience, et toute l'expérience d'une défaite côté Inter, et un petit peu l'insouciance d'une jeunesse extraordinaire côté Paris. Voilà, c'est ça un peu l'enjeu du soir. On a une équipe revancharde, une génération en bout de course, celle de l'Inter. Et puis, une histoire qui s'écrit devant nos yeux, là, qui est toute nouvelle, c'est celle du PSG. Mmh. Donc, voilà, j'ai bien du mal à choisir mon camp. Enfin, au niveau du pronostic, mon camp, il est choisi, évidemment, depuis longtemps. Mmh. Mais bien malin qui pourra me dire ce soir qui, de l'expérience interiste ou de la fougue parisienne, l'emportera.
Alors, à Paris, l'entraîneur Luis Enrique vante le collectif. Mais est-ce que le PSG ne compte pas un peu trop sur un de ses joueurs en particulier, Ousmane Dembélé ?
Je crois que c'est justement la grande différence avec avant, Eric, c'est que les années d'avant, on comptait sur du Ibra, du Neymar, du Mbappé. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé, avec les 4 mois qu'il va nous offrir absolument extraordinaires, fait partie d'un collectif. Il y a toujours dans un collectif un joueur qui le sublime, ce collectif. C'est pareil au basket, au hand, au volley, au foot, ça fait pas exception. Donc Ousmane Dembélé n'existe que par le collectif et que pour le collectif. Donc je pense que même si Ousmane passe un petit peu à côté de son match, Paris peut l'emporter quand même, et c'est ça la nouvelle grande force du PSG.
Mais Dembélé, ce serait le seul quand même à vos yeux à pouvoir inquiéter les défenses milanaises?
Non. Alors Dembélé, évidemment, parce que lui, il est dans la course au Ballon d'Or et depuis 4 mois, il marche sur l'eau. Mais la nouvelle recrue, le géorgien Kvaratskhelia, qui est absolument extraordinaire, le jeune Barcola est doué, on ne sait pas encore qui jouera sur le côté droit. Non, le danger vient de partout. C'est aussi ça la nouveauté, c'est que au niveau, si on parle vraiment football, une seconde, le danger vient de partout. Alors qu'avant, effectivement, les gens ciblaient Mbappé, et puis le match était quasiment terminé quand Mbappé était bien pris. Aujourd'hui, il y a, je pense, 5 joueurs, voire 6 joueurs qui offensivement peuvent apporter un vrai, vrai danger côté Paris.
Ça fait 14 ans hein, que le Qatar a racheté le PSG, justement pour aller décrocher un titre européen, sans succès depuis 14 ans. Cette politique des stars, hein, vous citiez Neymar, Mbappé, Messi, c'est une stratégie qui a définitivement échoué.
Alors, elle a échoué sportivement, oui. Elle a réussi sur le plan marketing mondial, parce que bien avant cette finale de ce soir, le PSG avait été ciblé comme, ça y est, une marque bankable. J'allais dire, vous avez aujourd'hui une boutique du PSG à New York, vous avez une boutique du PSG à Tokyo. Donc, sur le plan marketing et reconnaissance de la marque PSG, cela avait été réussi. Avec Beckham, en tout début, rappelez-vous, de tête de gondole du projet. Aujourd'hui, c'est sportivement qu'il devienne réussite au projet. Et effectivement, cette équipe de jeunes, entre guillemets, sans grosse star, on vous montre bien que c'est le collectif mis en place par le coach Enrique qui portait ses fruits. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ça serait la consécration sportive d'un projet qui est réussi sur le plan marketing.
Ce soir, ce sera aussi une finale des gardiens, vous l'ancien gardien, Gianluigi Donnarumma d'un côté au PSG, 26 ans, et Yann Sommer à l'Inter, 10 ans de plus que le Parisien, enfin que Gianluigi. Deux gardiens qui ont été en état de grâce, est-ce que vous estimez qu'ils y sont pour beaucoup dans le parcours de chacune des équipes?
C'est évidemment. Alors, Yann Sommer, évidemment. Moi, je trouve que c'est un gardien sous-côté, Yann Sommer. Pour moi, j'ai toujours dit depuis 3-4 ans, c'est un gardien sous-côté qui est depuis les années maintenant dans les 10 meilleurs du monde. Donnarumma, c'est différent. On l'a connu à l'Euro, rappelez-vous, en 2021, où il gagne l'Euro quasiment à lui tout seul avec l'Italie. Et puis au PSG, c'était plus dur, en tout cas plus dur dans les gros matchs. Et il y a vraiment un changement cette année où on peut le dire sans se tromper, et c'est pas un jugement, c'est un fait, sans Donnarumma, le PSG n'est pas là ce soir. C'est sûr et certain, c'est même pas une discussion. Les matchs à Liverpool là-bas, le match à Aston Villa là-bas, et les deux matchs face à Arsenal. Évidemment, pour moi, même au-delà peut-être même d'Ousmane Dembélé, c'est le grand bonhomme depuis 3 mois, c'est le grand bonhomme du PSG.
Merci beaucoup de ces commentaires en direct. Merci, Jérôme Eric. Alonso, ancien gardien du Paris Saint-Germain et consultant Radio France. Retenez encore qu'à Paris, la RATP a choisi de rebaptiser la station de métro Porte de Saint-Cloud, près du Parc des Princes. Elle s'appelle provisoirement Ici c'est Paris, en référence au cri de ralliement des fans du club depuis 2008. PSG Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, le coup d'envoi à Munich à 21h.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
À la une également, ces 4 établissements de la communauté juive, dont le mémorial de la Shoah et 2 synagogues, qui ont été visés par des jets de peinture. La nuit dernière, c'était dans le 4e arrondissement de Paris. Delphine Evenou.
Ce ne sont pas des inscriptions écrites, il n'y a pas de motif particulier affiché, mais les façades de ces bâtiments ont été badigeonnées de peinture verte, en plein cœur de Paris, 4e arrondissement, quartier du Marais. Au moins 2 synagogues, celle des Tournelles, près de la place des Vosges, et la synagogue Agoudas Akeilos dans le même périmètre. Un restaurant a également été visé, de même que le mémorial de la Shoah. Les policiers ont constaté les faits lors de leur patrouille tôt ce matin. Un pot de peinture entamé a été retrouvé au pied du restaurant. L'analyse des images de vidéosurveillance a permis de confirmer la présence d'une personne vêtue de noir en train de taguer les bâtiments. Mais il n'y a pas eu à ce stade d'interpellation, pas non plus de revendication. Sur les réseaux sociaux, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ont condamné des intimidations et des actes odieux.
Et Bruno Retailleau qui exprime sur X donc son dégoût après les dégradations qui ont donc visé cette nuit à Paris 4 établissements liés à la communauté juive. C'était Delphine Evenou. Il n'y a jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises. 83 681 détenus au 1er mai. C'est le décompte annoncé ce matin par le ministère de la Justice. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter et qui illustre la surpopulation carcérale. Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, estime que d'autres solutions que l'enfermement ne sont pas assez usitées.
Les juges envoient de plus en plus de monde en prison, sans tenir compte du fait qu'on pourrait peut-être activer quelques autres peines qui sont des peines aussi, comme le bracelet électronique, qui n'est pas une sinécure, je vous assure, le travail d'intérêt général, etc. Mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est que le pouvoir politique prenne les choses en main, ait le courage de dire écoutez, faisons sortir beaucoup de détenus comme au temps du Covid, à 1 mois de leur fin de peine, des sorties sous bracelet, encadrées par les services pénitentiaires, dégorgeons un peu les prisons, comme c'était le cas avant tous les ans, grâce aux grâces collectives que, hélas, Nicolas Sarkozy a supprimées en 2009. La prison a une mission de punition, c'est sûr, mais aussi de réinsertion. Et c'est dans la loi. Et cette obligation de la loi, elle est intenable.
Voilà, propos recueillis par Benjamin Fontaine, notre collègue de France Info. Ce sera jeudi, le congrès du Parti Socialiste, durant lequel les militants désigneront leur nouveau premier secrétaire. Ce sera soit le sortant Olivier Faure, soit le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Un troisième homme, Boris Vallaud, n'a pas passé le second tour. Eh bien, il préfère finalement laisser la liberté de vote à ses troupes. Pas de consigne de vote, Jérôme Val.
Les promesses des deux candidats encore en lice n'y auront donc pas suffi. Boris Vallaud a choisi la Suisse, rail un proche de Nicolas Mayer au Signol. Mais cette position de neutralité est tout sauf une surprise. Il a toujours fait de sa candidature celle du rassemblement du PS. Et ces derniers jours, les soutiens du chef de file des députés socialistes à l'Assemblée le répétaient. Choisir l'un des deux finalistes, c'est prendre le risque de diviser. Alors pas de directive, mais difficile de pronostiquer comment vont se partager les voix des 4000 militants qui l'ont soutenu. Dans son communiqué publié hier soir, Boris Vallaud plaide pour un pacte de gouvernance. Une main tendue, aussitôt saisie par Nicolas Mayer Rossignol sur le réseau X. Nous répondons positivement à cette proposition, écrit le maire de Rouen. Et de son côté, le bras droit d'Olivier Faure, Pierre Jouvet, de lui emboîter le pas. Nous souhaitons construire avec Boris Vallaud la future gouvernance du PS. Boris Vallaud, qui devrait dire en début de semaine pour qu'il se prononcera à titre personnel, mais a-t-il laissé un indice hier soir en évoquant, je cite, une campagne commune de la gauche pour 2027, de Glucksmann à Ruffin, c'est-à-dire la proposition portée par Olivier Faure.
Jérôme Val, service politique de France Inter. À Mayotte, l'épidémie de chikungunya est passée depuis quelques jours au stade de faible intensité. Eh bien, ça n'empêche pas l'archipel d'enregistrer de nouveaux cas cette semaine, près d'une centaine de contaminations supplémentaires depuis 8 jours. L'Ukraine qui a ordonné ce matin l'évacuation de 11 villages de la région de Soumy dans la crainte d'une offensive russe qui semble avoir commencé ce matin. Cette guerre en Ukraine, elle a aussi son lot de petits problèmes du quotidien, des choses qui peuvent sembler banales comme un mal de dents. Eh bien, à l'arrière du front, nos envoyés spéciaux dans la région de Kharkiv, Agathe Mahuet, Hélène Langlois et Yachar Fazilov, se sont rendus dans un cabinet dentaire mobile qui vient soigner au plus près du terrain. Reportage.
Un petit camion jaune entièrement recouvert d'un dense filet noir pour ne pas être vu du ciel. Il est garé depuis des mois dans la cour d'une maison que l'on croirait abandonnée, mais ce bus dentaire peut se déplacer à nouveau à tout moment si nécessaire. Installé sur le fauteuil du dentiste, le patient a un joli surnom, Soukharik, ce qui veut dire petit crouton, comme ceux que l'on disperse dans la soupe. Ce grand gars costaud a en ce moment une forte douleur aux dents.
Sur le front, un manque d'hygiène, des repas pas équilibrés. Résultat, on a plein de problèmes dentaires.
Lui est chargé de lancer les obus contre le camp russe dans la 31e brigade. Pour ses frères d'armes, comme pour lui, les dents ne sont pas une priorité.
Il faut une douleur aiguë pour réagir, donc on y va seulement si c'est urgent.
Le dentiste qui s'occupe de lui s'appelle Dmitro. Il a intégré l'armée il y a 2 ans et soigne ici 10 à 12 soldats chaque jour.
Le problème, c'est qu'ils ont une mauvaise hygiène dentaire et pas le temps de s'en occuper. Donc une petite carie peut vite entraîner des complications avec une douleur insupportable. Et ils ne peuvent plus assumer leur mission de combat. Donc on essaie de les aider.
Il attrape un outil sur un plateau dans le minuscule cabinet mobile. C'est vrai qu'on est un peu à l'étroit ici, dit-il, mais il y a tout ce qu'il faut.
Reportage à Kharkiv d'Agathe Mahuet, Hélène Langlois et Yachar Fazilov. À Roland-Garros, le numéro 1 du tennis français Arthur Fils a été contraint au forfait hier avant son 3e tour. Eh bien, on apprend ce matin qu'il souffre d'une fracture de fatigue dans le bas du dos. Il sera absent plusieurs semaines et donc incertain pour le tournoi de Wimbledon à partir du 30 juin. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. C'est dans une guinguette itinérante ce matin. Une guinguette qui sillonne la campagne pour ambiancer les bourgs les plus isolés. Valse, tango, java et passo-doble. La guinguette mobile comble une forme d'injustice. Étape donc ce matin à Mandres-la-Côte, c'est en Haute-Marne.
Mandres-la-Côte, un vendredi soir où on entend bien les cloches de l'église. Alors imaginez ça.
J'adore.
Madame la maire, Isabelle Lardin.
Quand je les ai vus arriver, j'ai fait comme une enfant. Waouh, super. Ça m'émeut.
S'il n'y a pas la guinguette, là, c'est quoi? C'est la zapette et c'est la télé.
Ouais, porte fermée. Le fait de ne plus avoir de café, il n'y a plus de lieu qui rassemble. Donc c'est ça, village dortoir.
Là, au moins, ça réveille.
Bah, carrément, oui. C'est vrai que ça change.
Ça change de quoi?
Ça fait un peu d'animation. On n'est pas habitué ici à en avoir beaucoup. Puis ça évite de bouger sur nos gens au Chaumont, devoir se déplacer, et puis permet de se rencontrer, quoi.
Et nous, ça nous fera 4,50€, s'il vous plaît.
Se rencontrer, le verbe a quasiment disparu du dictionnaire à entendre les anciens.
Bon, j'habite à côté de l'ancien café. On voyait des gens arrêtés, des gens tout le temps dans la rue, là, on voit plus personne. Hein. c'est mort.
Dans les autres villages, c'est exactement pareil. Les gens, s'ils veulent se payer l'apéro, ils le boivent chez eux. Et puis, les infos, on les avait un peu au bistrot. Maintenant, on les a sur Facebook, on les a sur la télé, on les a partout. Mais, c'est la vie de maintenant.
C'est triste. Même les jeunes le déplorent. D'ailleurs, ils sont nombreux à la guinguette.
Même si c'est pas de notre âge, on vient quand même comme ça, on voit nos amis. Parce que sinon, on se fait chier, quoi.
C'est l'occasion de draguer aussi, là.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu l'occasion.
C'est pécho. 0,6 au moins.
Ouais, au moins 0,6.
Y a de la joie.
J'ai un pichet de rouge, c'est une cruche de rouge.
Derrière le comptoir du petit camion, Elodie va servir près de 300 personnes. Elle a 2 ans de guinguette au compteur.
Elodie, vous avez l'air de vous éclater.
Moi j'adore. C'est super.
Qu'est-ce qui vous frappe à chaque fois?
Les sourires.
Ouais, c'est vrai, ils ont tous
le... Ils ont tous le smile. C'est ce qui me frappe à chaque fois. Et le plaisir que les gens vont se retrouver. Souvent, on en a même qui disent, c'est mon voisin que j'avais pas vu depuis... des mois ou un moment, et ils se retrouvent là ensemble sur un temps où ils vont boire un coup ensemble, ils vont passer un bon moment, ils vont discuter, et c'est tout ce qu'on veut dans la guinguette. Donc voilà, on a réussi à permettre aux gens de se retrouver, donc c'est que le pari est réussi. Bonsoir.
2 blondes, des tigres.
25 ou 50 ?
50.
La guinguette mobile comme lien social, c'est dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'ambiance devient de plus en plus lourde.
Oui, avec encore des températures élevées puisque la moyenne va de 26 à 33 degrés pour avoir un petit peu moins chaud direction les côtes de la Manche où là on aura 20 à 25 degrés en moyenne. Et ça c'est parce qu'on a des nuages côtiers qui vont faire du surplace, ils sont déjà présents depuis ce matin. On en retrouvera également des nuages sur les côtes landaises. À l'ouest et au sud, le soleil sera présent mais parfois bien voilé.
Et sur le nord-est, eh bien ça tourne à l'orage.
Des orages qui pourraient éclater entre l'est de l'Île-de-France, le Grand Est et en descendant vers l'Auvergne. Ils seront présents surtout entre la mi-journée et la soirée avec les orages les plus forts sur le secteur de la Champagne-Ardenne où on attend de la grêle, voire des grêlons, de fortes rafales de vent. Le secteur de la Champagne-Ardenne est ciblé, mais on le sait, les orages sont parfois imprévisibles. On pourrait en avoir également sur les régions limitrophes. Donc prudence pour ces orages dès la mi-journée.
Les prévisions de Céline Dacosta.